Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, quelques petites minutes de retard, mais la technique, c'est ça, le direct, voilà. Donc, vous êtes en direct sur Principe Actif, 102.4 à Évreux, 95.9 sur Verneuil, Breteuil et Conches. Bienvenue dans De vous à nous, on vous dit presque tout. Connaissez-vous l'origine des noms de famille, de votre nom de famille ? Marqueur essentiel de notre identité, de notre histoire familiale qui nous poursuit tout au long de notre vie. Comment naît un nom de famille ? Quel lien unit un patronyme à un lieu géographique, à un métier, à une particularité physique ? Nos deux invités, Norence Carvalho et Tom. Alors Tom, je vous demanderai de dire votre nom s'il vous plaît.
Alors je m'appelle Tom Piovarzic.
Voilà, merci beaucoup. Tous deux employés aux archives municipales d'Évreux vont nous aider à répondre à ces questions. Nous les remercions pour leur présence et leur expertise dans ce domaine. Michel, MC, Marie-Claude, Michel, le seul homme de notre équipe, Sylvie et moi-même Florence sommes heureux de vous retrouver pour une heure d'émission. Notre émission sera jalonnée de jingles, morceaux de musique. Tom et moi-même vous ferons l'historique des noms de famille. Il y aura deux temps d'interview de nos invités menés par Marie-Claude et Sylvie. Bien sûr, nos chroniqueurs pourront intervenir. MC se chargera de la minute culturelle en nous parlant d'un livre. Michel développera son intervention au sujet des pseudos. Ce mois-ci, Michel échangera son billet d'humeur par un billet d'humour. Et comme toujours, une bonne nouvelle de la part de Sylvie.
Quand vous étiez enfant, ne vous est-il jamais arrivé de prendre l'annuaire, de chercher des noms insolites, ridicules, rien que pour vous amuser ou faire des blagues au téléphone ?
Cochon, kiki, kikiron, kikiron.
La cloche, la courte,
la cuisse.
Donc bonjour Tom, donc
bonjour.
C'est avec vous que nous allons éclairer l'origine des noms de famille et leur contexte. Dans l'introduction, quelques questions ont été posées. La première est, quelle est l'origine et surtout depuis quand les utilise-t-on ?
Alors tout dépend de où on se trouve. Si on prend notre Europe bien commune, on peut remonter à l'Antiquité romaine entre 2000 et 3000 ans avant Jésus-Christ avec la tria nomina, le praenomen, le nomen et le cognomen qui correspondent au surnom, nom et nom de famille.
Voilà.
Déjà à l'époque, on avait le praenomen qui est le surnom qui correspondait à un attribut physique. On avait la gens qui correspond au cognomen qui était la famille et le prénom de la personne.
Je crois que j'ai l'exemple, on a l'exemple de Jules César. Moi j'ai noté, j'ai fait des petites recherches qui s'appelait Caius Julius Imperator.
Tout à fait. Mais voilà. Là on était plus lié sur le titre.
Sur le titre, voilà, parce qu'il y avait le clan aussi.
Ouais.
Par contre, j'ai noté aussi que la plèbe, parce que c'était quand même réservé aux riches familles, le nom, non ?
Absolument.
Parce que la plèbe, elle, par contre...
Les personnes très pauvres n'avaient pas forcément des grands noms de famille.
Voilà. Et alors, qu'est-ce qui va détruire ce triple nom ? Parce qu'à un moment, ça s'est trouvé détruit.
Eh bien, la chute de l'Empire romain.
Voilà. Voilà.
Exactement.
Oui.
L'Empire, la religion chrétienne s'est expandue tout en Europe. L'Empire romain s'est échoué un peu partout sur nos rivages. Mm-hmm. Mais avec la culturation et l'histoire, avec les invasions germaniques, anglo-saxonnes, etc., etc., on arriva plutôt vers le XIIIe siècle en France, avec le début des noms de famille. Mm-hmm. Après le melting pot de toutes les générations depuis 800 ans, on arrive sur une explosion démographique et on se retrouve avec beaucoup de Pierre, Paul, Jacques. Car quand on est un bon chrétien, on arrive avec beaucoup de Pierre, Paul, Jacques, parce qu'il faut nommer ses enfants comme les saints.
Voilà.
Et on a donc besoin de les différencier.
Voilà. Alors justement, pourquoi le christianisme a détruit ces noms de famille ? Est-ce que vous avez... Moi, j'ai noté quelques petites choses. Par exemple, que pour les chrétiens estimaient qu'on appartenait qu'à une seule famille, celle du Christ. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de nom de famille. Enfin, je ne sais pas si vous étiez d'accord avec ça, si vous...
Alors, là-dessus, je ne sais pas.
Ah non. D'accord. Bon, et puis, vous avez parlé aussi des invasions germaniques.
Tout à fait.
Hein, donc, qui, eux, les tribus, je crois, ne portaient que l'équivalent d'un prénom. Il n'y avait pas de nom de famille dans les tribus.
On avait, c'est ça. Et les noms germaniques se sont beaucoup diffusés en France. Par exemple, Gérard est un nom germanique.
D'accord.
Enfin, les noms et les prénoms.
OK.
Liés aux acculturations, car l'Empire germain a beaucoup évolué aussi en France.
D'accord, ok. Bon. Et donc, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a une multitude de Philippe, de Jean, de, voilà, de surnoms. Alors, comment on a fait pour distinguer, justement, toutes ces personnes, ces Pierre, Paul, Jacques, comme vous dites ?
Eh bien, là-dessus, on est arrivé avec quatre grandes catégories de noms de famille. La première est l'héritage. On hérite du nom du père ou de la mère. En Normandie, on est plutôt sur le matronyme, donc le nom de la mère. Donc, c'est tout ce qui va être Marie, Jeanne. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui a un nom de famille qui s'appelle Marie. Et le père, ça va être Vincent, Paul, l'habituel.
D'accord.
Le cas des orphelins peut être un peu particulier à ce niveau-là, parce que le nom pourra venir de là où l'enfant est trouvé. Donc ça peut être de la porte, du parvis, ce genre de choses. Ça peut être lié aussi au le saint du jour.
Oui.
Si on peut être un Pierre né à la Saint-Pierre.
D'accord.
Dans ce cas-là, on s'appelle Pierre-Pierre.
Le mois.
Le mois aussi.
Avril.
Tout à fait. Attention, Laurence. Prends le micro.
Ah oui, oui. Il faut le micro. Et oui, oui.
Ça peut être également le mois durant lequel l'enfant a été trouvé. Jeannot, avril,
Marie,
septembre, enfin, ce genre de détails.
Et ça peut aussi dépendre de l'imagination de l'officier de l'état civil.
Aussi, oui.
Quand il a été mis en place, hein, car au XIIIe siècle, on est encore sur les balbutiements ce genre de choses.
Ou du curé.
Ou du curé, oui. Tout à fait.
Parce qu'à l'époque, ce sont les curés qui sont, qui sont tenus d'enregistrer et de conserver les registres dits. Registres paroissiaux.
Tout à fait.
D'accord, ok. Et donc, ouais, parce que, alors, moi, j'ai cru voir qu'en fin de compte, au niveau de l'orthographe, ça peut évoluer d'un nom à l'autre.
Tout
parce
à fait.
Parce que, voilà, on se transmettait donc le nom de façon phonétique, mais pas au niveau de l'orthographe, en fait. Ça dépendait effectivement, comme vous disiez, de la fantaisie de l'officier d'état civil qui œuvrait ce jour-là. S'il enlève un T, s'il enlève, il rajoute un E, ou, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve des Jeannot avec un N, deux N, ou des Jeannin. Moi, mon nom, c'est Jeannin, et des Jeannin, vous en trouvez de façon bien différente. Enfin, vous avez J-E-A de Zanienne, vous avez...
De son niveau d'érudition,
oui.
À ce curé ou cet officier d'état civil. Il ne maîtrisait pas forcément complètement l'orthographe non plus.
Ouais.
Ça, sur les quatre grands noms de famille, le patois local est aussi une influence.
Une influence, d'accord.
C'est pour ça que sur les quatre grands noms, il y a aussi les noms de métiers. Et il y a plus de 600 noms de famille qui correspondent à Forgeron en France. Parce que c'est lié au patois. Par exemple, le Fèvre, c'est lié à Forgeron. Le Goff, en Bretagne, c'est lié à Forgeron. Le Fabry, en Corse, c'est lié à Forgeron, etc. etc. Je peux refaire les 600, mais il y en a beaucoup.
D'accord. Et donc, on a parlé de matronyme tout à l'heure. Et dans quel cas on utilisait le matronyme ? Parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient quand même pas, on va dire, dans la bonne position de la société. Enfin, ce n'étaient pas les premières de la société. Donc, dans quel cas, vous savez, si on utilisait le matronyme ?
Alors, le plus triste, peut-être, c'est surtout s'il n'y avait plus d'hommes en vie dans la famille.
Voilà, c'est ça. Et que la femme de... Est-ce qu'en cas de veuvage, voilà, c'est ça, en cas de... Et si la femme était... Parce qu'à une époque, les femmes, quand elles tombaient veuves, elles tombaient sous la coupe d'un oncle, d'une tante, enfin d'un neveu, d'un fils. Voilà, donc c'est dans ces cas-là, effectivement. Et des surnoms. On l'a déjà précisé, donc le prénom, c'était le prénom du père que l'on mettait derrière celui de l'enfant. Hein, ça, dans un tiers des cas. Bon, dans 30% des cas, c'est une localisation, comme on a dit. Hein, donc une provenance, l'endroit.
Du pont, du chemin, de la forêt.
Voilà, le normand, voilà. Et dans 20% des cas, c'était une caractéristique physique ou morale.
C'est ça.
Alors, est-ce que vous avez, par exemple, des exemples ?
Après l'héritage, les métiers, il y avait aussi les sobriquets.
Les sobriquets, voilà, c'est ça.
Alors, les sobriquets, souvent liés au physique de la personne, on retrouve les classiques, le grand, le petit, gros ou même le borgne.
Oui, aussi.
Et souvent, les sobriquets, c'était donné par un voisin ou un voisinage, ce qui fait que c'était pas toujours très gentil.
Oui, voilà, c'est ça.
Ce qui, même de nos jours, a donné lieu à la création d'une association qui s'appelle Les Handicapés du Patronyme.
Ah, bah écoutez, voilà.
Donc, à l'époque, si vous aviez un voisin un peu méchant, vous pouviez vous faire nommer Thomas Vieille-Dent, et pas de chance, ça restait pour vos enfants.
Voilà, c'est ça. Alors, moi, j'en ai noté un, c'est Boileau.
On peut remarquer que c'est toujours le défaut. Le détail grotesque ou laid qui est mis en avant.
Voilà.
C'est jamais très positif en général.
Ça, parmi les exemples que j'ai relevés sur les handicapés du patronyme, il y a notamment connard.
Oui, aussi. Bah oui.
Mais qui ne vient pas de l'insulte. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, connard vient du germanique kono et ar, qui signifie brave et dur.
Ah, bah voilà. Donc.
Alors, cocu, ça vient d'où ?
Alors, je vais vous répondre qu'il y a aussi le nom de famille Belverge.
Oui, absolument.
Qui s'explique par lui-même.
Ah ouais, effectivement. Et puis moi, j'ai eu Boileau aussi. Alors, c'est un surnom que quelqu'un qui ne buvait pas que de l'eau. Voilà, donc c'est tout à fait... Voilà, ce qu'on voilà. Et puis, il y avait par exemple Sage, Courtois, Gaillard ou Joli. Alors, au Moyen-Âge, Joli, ça voulait dire joyeux. Voilà, bon, voilà. Et puis, par exemple, pour ceux qui s'appellent Charlemagne, est-ce que vous... justement, est-ce qu'on a l'impression, si on s'appelle Charlemagne, qu'on descend de Charlemagne ?
Alors, oui et non. Alors, Charlemagne, malgré ce qu'on pourrait penser ou non, il a engendré énormément de Français. Si on fait notre généalogie, on est beaucoup à remonter à Charlemagne.
Oui.
Mais pas par le nom.
Pas par le nom, parce que je crois qu'à cette époque-là, justement, il n'y avait pas les noms de famille à l'époque de Charlemagne. Voilà. Et Charlemagne, c'est Carolus Magnus, Charles le Grand. Donc, c'est encore une caractéristique physique. Et voilà, bah écoutez, nous allons passer à la suite, à notre micro-trottoir.
Est-ce que vous connaissez l'origine de votre nom de famille ?
Alors bonjour, moi je suis Théo Pélissier. Donc un Pélissier, c'est l'ancien nom qu'on donnait au tanneur, celui qui travaillait les peaux de bêtes pour faire des manteaux ou des couvertures. Et donc c'est un nom qui n'est plus utilisé maintenant, mais c'est l'ancien nom du tanneur.
Alors, l'origine de mon nom de famille. Alors on a quelques pistes dans notre famille justement sur ce nom. Des pistes qui sont d'ailleurs assez surprenantes parce qu'elles sont assez un peu contradictoires. Je vais vous donner celle qui est le plus véhiculée en fait dans ma famille. C'est le fait que Lamé serait en fait représenterait en fait la mère. En fait, c'est un prénom qui serait plutôt breton, qui représenterait la mère, et par la suite, de l'évolution du langage, la mère serait devenue Lamé. On dit aussi chez les Bretons que un Lamé, c'est quelqu'un qui est un sauteur dans le sens saltimbanque, mais comme dans tous les autres sens du terme. Voilà. Donc, ce qui fait sans doute référence au marin. Trois autres pistes. Une autre piste serait que ça viendrait en fait d'un métier à tisser, en fait du fait qu'un tissu existe, d'ailleurs deux tissus existent, les lamés or et les lamés argent. Une autre piste, mais alors qui celle-là nous emmène beaucoup beaucoup plus loin, elle nous emmène au Cameroun, car il existe au Cameroun en fait une tribu de quand même plus de 35 000 personnes qui s'appelle les lamés.
Je sais que normalement il est breton, c'est tout ce que je sais. Je m'appelle Guillou.
Pas vraiment, je sais que c'est sénégalais, mais c'est tout, c'est déjà pas mal.
Et c'est comment, votre nom ?
Badji.
Franchement, aucune idée.
Mon nom de famille, c'est Valérie, mais...
Valérie, votre nom de famille ?
Oui, comme le prénom féminin.
D'accord.
Bon. Je me suis jamais réellement posé la question sur l'origine, franchement.
Oui, alors, est-ce que vous connaissez l'origine de votre nom de famille ?
Bah, je m'appelle Jean, mais mon origine, non ?
Du tout.
Non.
Du tout, du tout.
Pas du tout.
Comment votre nom de famille ?
Dron.
Alors je sais que c'est d'origine bretonne, mais sinon, je ne connais pas plus loin.
C'est quoi votre nom ?
Trégoué. Trégouette, oh, oui, même oui, on le prononce vrai,
c'est vraiment
là-bas.
Enfin, si, c'est Simon, c'est un prénom, donc c'est quelqu'un qui a été abandonné il y a longtemps et à qui on a donné le jour de naissance, mais c'est tout ce que...
Non, ça me dit, je sais pas. Je crois que c'est nordique, mais sans plus. Mais c'est Cressé, mon nom de famille, Cressé.
C'est d'origine bretonne, apparemment.
Ah oui.
Le Balch.
Oui, je suis née à Metz. Pernod.
Non, je sais que c'est polonais, c'est tout.
Balcéroviac.
Ben, mon origine, enfin, moi c'est... Le nom de ma mère, c'est Meunier, parce que je suis une enfant abandonnée. Donc, je ne peux pas vous expliquer l'origine vraiment arrière, quoi.
Pour tous.
venez d'écouter le chanteur de Daniel Balavoine, qui était normand, lui, il est né à Alençon. Et cela fera 39 ans le 14 janvier prochain qu'il nous a quittés. Il est encore bien présent dans nos esprits.
Mon nom patronymique faisait partie de ceux qui avaient été attribués de façon arbitraire à nos grands-parents à la fin du 19e siècle par l'administration coloniale. Comme elle n'arrive jamais à se retrouver avec notre système d'appellation, ils nous ont donné de nouveaux noms pour mieux nous repérer. Dans le système traditionnel, nous possédions tous des chapelets de prénoms qui se suivent. Mohamed, Ben Ali, Ben Saïd, Ben Mohamed, Ben Saïd, Ben Ramdan, Ben Mufarid, Ben Abdelhamid, Ben Salim, Ben Ahmed, Ben Ramdan. Une fois que le même prénom revenait deux, trois fois dans la liste, les fonctionnaires français étaient saisis de vertige.
Alors Marie-Claude et Michel, c'est à vous pour une interview de nos invités.
Eh bien voilà, nous allons continuer notre interview et on va essayer de savoir plein de choses. En plus de Tom, nous avons donc Loros Cavallo, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui.
Vous pouvez nous vous présenter un petit peu ?
Alors, je suis Laurence Cavallo, je suis la directrice adjointe du service archives et patrimoine d'Evreux et de l'agglomération Porte de Normandie, puisque nous sommes un service donc mutualisé, ouvert au public.
Voilà. Donc on peut venir vous voir, vous poser plein de questions.
Exactement.
Voilà.
Consulter les archives surtout.
Et consulter les archives. Florence et Tom nous ont présenté un petit peu l'historique et comment on est arrivé à avoir des patronymes avec des prénoms, d'où cela pouvait venir. Et puis surtout un brassage quand même de populations, les germaniques, les russes aussi, enfin, bon, etc.
De tous les pays.
De tous les pays, absolument. Les 100 ou 150 dernières années, quand même, on a vu beaucoup de bouleversements au niveau de l'Europe. Hein, de guerre mondiale, la Russie qui a viré de bord les Russes blancs sont arrivés en France, mais pas qu'en France. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi des déplacements de population énormes, etc. Tous les exodes, etc.
Exactement.
Qu'est-ce que l'on peut dire justement par rapport à ces changements et le résultat un peu de ces changements ?
Oh, bah on peut dire beaucoup de choses. Les noms de famille sont liés à ces changements, de toute façon, c'est ce que je disais avec les influences germaniques, les influences romaines, etc. Encore aujourd'hui, on a des noms qui sont absolument romains. Quentin est dérivé de Quintus, qui veut dire le cinquième en romain.
Oui.
C'est pareil pour Octavien, qui est dérivé d'Octavien.
Le 8e.
Ça. Et en France, Laurence et moi, on est représentatifs de ces flux migratoires, de ces migrations, etc. Parce que moi, c'est Tom Piwarczyk. Tom, je pense, ça a dérivé de Thomas. On ne peut pas faire plus français, c'est un saint. Mais Piwarczyk n'est pas français du tout. Mais ça veut dire tavernier. Et Tom Tavernier, je pense qu'en France, il y en a beaucoup. Et Laurence, c'est pareil, avec son nom de famille qui est Cavallo, que je vais laisser s'exprimer sur le sujet.
Oui, non, mais c'est pas, ma famille paternelle est en fait arrivée en France parce qu'à l'époque, la France recherchait beaucoup de main-d'œuvre. Voilà. Et la main-d'œuvre italienne, donc, était assez recherchée. Et donc, voilà, ma famille s'est installée à Nice au départ. Et de fait, je porte aujourd'hui un nom italien.
D'accord. Voilà. Et quant à Tom, c'est polonais.
Tout à fait.
Et
exactement.
Les ancêtres sont arrivés à quel moment ?
Alors, c'est au niveau de mon grand-père et arrière-grand-père, donc la guerre.
Donc, première guerre ? Deuxième ?
Deuxième.
Deuxième. Ouais. Deuxième guerre. D'accord. Ils sont arrivés, ils sont installés, et puis voilà.
On a un deuxième représentant italien dans la salle.
Michel.
Florence, j'allais m'exprimer sur le sujet, mais tu m'as devancé. T'as pas pu résister. Oui, bah oui. Ma famille aussi, côté paternel, a une origine italienne. Et donc, bah, ils sont arrivés par les vagues d'émigration pour chercher du travail en 1920. Hein.
C'est ça.
Et ils n'étaient pas trop attendus, mais ils étaient là. Et puis, voilà, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds en travaillant. Mmh. Et sur les prénoms, mon grand-père, voilà, à l'origine, ce que vous parliez, il était le cinquième, il s'appelait Quinto.
Voilà.
Et le deuxième, souvent, c'était Secondo. Le premier, c'était Primo. Donc, ils n'étaient pas trop inventifs hein, à l'époque.
C'est un classique.
Hein, mais bon, voilà, c'était les mœurs de l'époque.
Mais est-ce que l'on peut, je ne sais pas, faire des espèces de synthèses ou de statistiques, si on veut, des populations qui sont arrivées, de ce brassage, en fait, de ces populations en France. Est-ce qu'on peut le faire ?
Oui et non, parce que les noms de famille sont représentatifs d'un héritage. On peut savoir d'où le nom de famille vient, mais parfois, les gens changent de nom de famille. Ce qui fait que ça fausse totalement les statistiques.
D'accord.
Et de ce que je parlais tout à l'heure avec les handicapés du patronyme, on change aussi de nom de famille s'il est dur à porter.
Oui.
Ce qui fait que ça peut fausser aussi l'héritage qu'on peut essayer de retrouver. Mais on a aussi les registres d'état civil, et Laurence va pouvoir nous en parler
un peu plus. C'est vrai que les archives sont le point de départ dans cette quête des origines, puisque les actes d'état civil, en fait, balisent la vie d'un individu depuis sa naissance, qui est inscrite dans les registres de naissance. S'il se marie un jour, ce sera également enregistré dans les registres des mariages. Et jusqu'à sa mort, tout sera noté et conservé. Finalement, vous êtes de plus en plus à rechercher l'origine de votre lignée, de l'histoire de votre famille. Et c'est vrai que les archives sont là pour pouvoir les justifier ou aider les individus à avoir plus d'informations sur leur identité.
Oui. Donc vous constatez actuellement une augmentation des demandes dans votre service ?
Nous avons régulièrement... Alors l'état civil, c'est vraiment la matière première des archives, je dirais. Nous avons régulièrement des demandes de recherche sur l'état civil ancien, en effet. Et les archives départementales proposent également aux personnes de pouvoir les consulter en ligne, ces registres d'état civil anciens. Donc vous pouvez soit venir aux archives d'Évreux si la personne que vous recherchez est né à Évreux, mais vous pouvez également faire des recherches sur le site des archives départementales au niveau de toutes les communes de l'Eure. Ils ont donc une base dédiée à l'état civil.
Et au sujet de ces recherches, est-ce que vous avez des recherches qui émanent de notaires pour régler des successions, des fois ?
Bien évidemment, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, on reçoit régulièrement ce genre de demandes.
Ouais, ça s'appelle la généalogie, ça, non ? Un peu ?
Oui, tout à fait. Les notaires régulièrement nous demandent des copies d'actes dans des dossiers de succession, bien sûr. Et il y a des successions qui deviennent, on va dire, plus problématiques qu'à une certaine époque, puisque la filiation se transforme comme la société se transforme, en fait. Il y a une réforme de la filiation engagée en 2005 et qui continue encore et encore. En 2022, une loi est sortie qui permet aujourd'hui à tout individu majeur de choisir le nom de famille qu'il souhaite porter.
C'est-à-dire le père ou la mère ou les deux ?
Oui, exactement.
D'accord.
Avant seul le père, en fait, donnait le nom de famille à ses enfants.
Il faut que ce soit impérativement le nom du père ou de la mère. C'est pas un nom d'emprunt.
Impérativement le nom d'un de ses géniteurs.
Voilà.
D'accord.
Et depuis 2022, chaque individu majeur peut en fait choisir de porter le nom de sa mère. Donc en termes de filiation et de succession, ça sera beaucoup moins simple qu'auparavant de rechercher les individus.
Ah oui, c'est très compliqué là maintenant. Alors. Ouais. Et il y a, quand on accole, parce que ça fait un petit moment où on peut accoler le nom de la père et de la mère.
Ça fait un petit moment depuis donc la réforme, je vous dis, de la filiation engagée depuis 2005. Ça a évolué. Au départ, on pouvait accoler les deux noms de famille. Et depuis 2 ans, on peut faire le choix de ne porter que le nom de la mère, par exemple.
D'accord, voilà. Ok.
Donc pour les notaires, ça va être des vrais
casse-têtes. Oui, ça va être compliqué, là. Ouais.
Et est-ce que ça peut rentrer dans le cadre aussi des adoptions, les ajouts de noms dans les...
Je ne saurais vous dire. Ouais, c'est particulier, hein, le cas de l'adoption.
Hein. Oui, parce que ça touche les noms de famille, bien automatiquement.
Sûr.
Oui, bon, là, vous avez... C'est vrai que ce n'est pas tout à fait votre domaine. Mais personnellement, j'ai fait une adoption. Donc la personne qui est adoptée majeure peut prendre le nom de la personne qui l'adopte et met en deuxième nom.
Très
voilà,
bien.
C'est un choix. Elle n'est pas obligée de le faire.
Dans le cas d'une adoption.
Dans le cas d'une adoption. Plénière, voilà, d'une adoption simple.
Mais,
et c'est déjà une adoption simple et c'est autorisé. Donc, et alors que les noms, voilà, ça rejoint nos noms de famille.
Oui, mais il y a aussi les familles recomposées qui doivent aussi complexifier un peu l'affaire.
Ah oui, je vous dis, la transformation de la société a un impact entier dans le. On va dire aussi, par effet de ricochet, la transformation de la filiation.
On reviendra sans doute par la suite.
Hein. Voilà, bon, Marie-Claude et Michel, merci pour l'interview. On retrouvera Tom et Laurence tout à l'heure. Et maintenant, nous passons à la pause musicale.
Comme il y a eu 15 pour et 15 parts, il y a le Renault et le Renard. Le Renault ne boit que de l'eau, le Renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ni tout beau. Moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Docteur Renault, Mister Renard. Renard est un sacré soifard, Renaud est sobre comme un moineau. Quand Renaud rejoint son plumard, Renard s'écroule dans le caniveau. Renaud se méfie des pétards et du chichon qui rend idiot. Renard se les roule peinard pour s'exploser le ciboulot. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud s'efforce, c'est son boulot, d'écrire de jolies histoires pour séduire les gens, les marmots, pour amuser, pour émouvoir. À la pointe de son stylo, le Renard n'a que les gros mots. La parano et le cafard lui inspirent que des idées noires. Docteur Renaud, Mister Renard. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud souffre de tous les maux qui accablent ce monde barbare. Il porte les croix sur son dos des injustices les plus notoires. Renard désabusé se marre, se contrefou de ce bazar. Le monde peut crever bientôt, Renard s'en réjouirait plus tôt. Docteur Renaud, Mister Renard. A choisi la guitare et la poésie et les mots.
Et voilà, donc c'était donc Boucan d'enfer de Mister Renaud, Mister Renard, donc qui est tiré de son album qui est sorti en 2002.
Frankenstein, c'est un nom dur à porter ?
Oui, plutôt. On vous appelle à 2-3 heures du matin. Bon, je me précipite comme une folle, pensant qu'il y a quelque chose d'important, et j'entends « Allô, Madame Frankenstein ?» Bon, je réponds « Oui, ici Dracula, ha 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 », puis on vous raccroche au nez. Bon, ben ça, c'est courant, on entend ça au moins, je sais pas, 2-3 fois par semaine.
Vous avez décidé de changer de nom ?
Oui, nous avons un fils, et au cas où il serait devenu docteur, ça posait des problèmes de s'appeler Docteur Frankenstein.
Et voilà, maintenant nous allons passer à la deuxième partie donc, des invités, hein, donc avec Sylvie qui va mener notre débat.
Oui, alors Laurence et Tom, moi je me suis penchée beaucoup sur la Normandie. Hein. Et en faisant un petit tour d'histoire, on peut dire déjà que les Normands sont les descendants des explorateurs vikings scandinaves. Qu'ils se sont installés en Normandie en 9e et 10e siècle en quittant la Norvège. Donc du coup, on retrouve des patronymes hérités d'une longue histoire, comme Néel, Jal, Onfroy, Anfrid, Osmond, etc. Enfin, tous les dérivés de ces noms-là. Est-ce que ces noms ont disparu ? Est-ce qu'ils ont transité en Europe ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, les noms ont transité parce que les Vikings n'ont pas fait que les côtes normandes, ils ont fait aussi toutes les côtes anglaises.
Oui.
Et avec les échanges anglais-français, même si on ne s'est pas toujours tiré des boulets de canon dans la tête, on a aussi échangé beaucoup culturellement. Et c'est des noms qui ont fondu aussi. Siegfried est beaucoup moins commun en France, mais Silfried est devenu plus commun, par exemple. C'est le genre de nom qu'on retrouve pas que en Normandie, parce que c'est pareil, le changement, les migrations se font aussi à l'intérieur de la France. Les Normands peuvent partir dans le sud s'ils veulent plus de chaleur et moins de pluie. et ou partir dans le nord. Mais il faudrait voir des vraies statistiques sur l'évolution des non-vikings.
Oui, ça serait intéressant. Ouais, ouais.
Pour voir où est-ce qu'ils ont migré. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'avais fait le test génétique pour savoir où étaient mes ancêtres.
Ah oui.
Et ma mère s'appelle Lebrun, donc bien normand aussi. Mm-hmm. Ce qui fait que j'ai énormément d'ancêtres vikings. Parce qu'elle est restée en Normandie. Mm-hmm. Mes parents, enfin mon père du côté qui vient de la Pologne, pas très loin des vikings non plus. Donc j'ai énormément d'ancêtres vikings. Mm-hmm. Et je suis français.
Alors c'est pareil, mes autres recherches m'ont tourné vers les noms traditionnels. Alors la plupart introduits par le Normand qui proviennent de leur château, de leur village. Alors je vous en cite quelques-uns, Arundel, Bruce, Clifford, Percy ou De Courcy, d'Abernord. Et là ce sont plutôt des noms aristocratiques. Mais on ne les entend pas en fait finalement spécialement ces noms-là. C'est pareil, est-ce que ça a transité? Est-ce que...
Alors, c'est que les nobles se reproduisent moins aussi. Il y a peu de gens qui gardent des noms vraiment nobles de nos jours. Mm-hmm. Alors, souvent, c'est des gens qu'on va retrouver à la tête de l'État qui vont s'appeler le noble quelque chose ou de Martin Pré, ce genre de nom de famille. Mais ils sont très, très peu nombreux.
Oui.
Du fait que les nobles sont des familles très réduites et qu'elles ont tendance à rester entre elles.
Ok. Alors, c'est pareil. Maintenant, j'ai cherché un petit peu au niveau des caractéristiques des noms normands. Par exemple, dans le Calvados, une collection de patronymes qui vont ressembler à des prénoms féminins, Madeleine, Anne, Marie, Jeanne. Ce que vous nous avez dit tout à l'heure, donc ce sont des matronymes
tout
finalement,
fait, oui.
Où les enfants héritaient du nom de leur mère. Mais pouvez-vous me citer des noms très très répandus en Normandie? Moi j'en ai quelques-uns, mais je vais vous demander d'abord à vous.
Alors là, comme ça, moi j'aurais dit Lebrun, mais Lebrun, comme c'est la caractéristique physique des cheveux. Je pense qu'en France, il y en a beaucoup,
ouais.
Pas qu'en Normandie. Mais là, comme ça, des noms purement normands,
oui, je n'en vois pas. Et ces déclinaisons, le brun, le
oui.
blond,
oui,
le roux.
Voilà, tout ça. Alors, on a des Delamarre aussi, un nom typique de l'heure. Les Renouves qui viennent plutôt de la Manche. Les Lefèvre et Duval aussi. Y a aussi une particularité, justement, dans les noms normands, c'est le...
Oui, le patois qui
voilà,
ressort.
Voilà,
mais c'est dans toutes les régions de France, le patois ressort dans les noms de famille.
Oui, voilà, c'est ça. Mais... Excuse-moi. Sinon, justement, au premier débat, on a commencé à parler un peu de la reconnaissance justement des noms. Moi, je sais que mon père ne m'a pas reconnu, je porte le nom de ma mère, hein, mon grand-père, etc. Donc justement, vous pouvez développer un petit peu plus là-dessus.
Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire de la filiation des noms de famille... La loi du 3 janvier 1972, en fait, a été une grande avancée par rapport aux enfants naturels dits enfants illégitimes, puisqu'elle a permis de redistribuer les cartes en termes de reconnaissance, c'est-à-dire qu'à partir de 1972, ils ont pu être reconnus et porter le nom de leur père, et puis surtout prétendre à la même part d'héritage dans le cadre des successions que leurs demi-frères et sœurs. Et ça, c'est une avancée très significative, en fait, de la filiation, puisque avant 1972, le sacro-saint statut du mariage, en fait, ne permettait pas aux enfants nés hors mariage de porter le nom de leur père, ils ne portaient que le nom de leur mère, et de pouvoir prétendre à leur part de succession.
Mmh. Oui, donc c'est sûr que c'est une belle avancée, parce que même sur le plan psychologique...
Bien évidemment.
Se dire, je suis père inconnu, enfin bon, c'est désagréable quelque part quand même dans la vie. Mmh. Donc oui, c'est quelque chose qui a fait évoluer les mentalités.
Oui, certainement.
Marie-Claude, tu voulais intervenir?
Oui, non, c'était ça. Mais donc, ce qui veut dire que toute la filiation et les études, enfin la généalogie pour retrouver les descendants quand il y a des héritages, devient de plus en plus complexe, en fait.
Oui, oui, hein?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein?
Exactement. La mutation de la filiation s'adapte, en fait, à la mutation de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est une société qui donne beaucoup d'importance aussi et de plus en plus à la dite liberté individuelle des individus. Voilà. Et le fait de pouvoir choisir son nom de famille est assez significatif, oui, bien sûr.
Alors, oui, Tom.
Oui, j'ai une petite anecdote sur le fait de choisir ses noms de famille. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans les côtés nordiques, Islande, Norvège, etc., on a beaucoup de Stefansson ou Stéphane Dautier, donc Son pour fils et Dautier pour femme. Oui. Mais c'était si nombreux à l'époque de dire Son et Dautier que l'État a dit arrêtez de le faire. Et les gens ont commencé à choisir leur propre nom de famille. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés avec des Siegfried Aigle Royal, ce genre de choses. Donc l'État, après, il s'est rendu compte de sa boulette et il a dit non, voici 50 000 noms de famille, vous choisissez parmi ceux-là.
D'accord. C'est vrai que oui, je peux vous donner moi une petite anecdote qui est un peu rigolote aussi. Moi, j'ai une de mes belles-sœurs, elle s'appelle Poisson. Mmh. Bon, bah, effectivement, bah, le 1er avril, elle ne peut pas réserver une table au restaurant ou téléphoner aux impôts ou quoi. Hein. C'est impossible, on ne la prend pas du tout au sérieux.
Alors, parlons un petit peu, puisqu'on est là, des origines de nos noms à nous, là, tout autour de la table. Donc, on a vu Cavallo, c'était italien.
Cavallo, ça veut dire cheval en italien.
Exactement.
Peut-être que je fais partie de...
Peut-être. Donc, Tom, c'est polonais.
Tout à fait.
On peut redonner votre nom.
Pivo Verzik.
Voilà, c'est ça.
En français.
Florence.
Alors, moi, c'est Jeannin, donc ça vient des gens. Donc, vous voyez, c'est tout à fait... Oui. Avec une déclinaison d'orthographe...
comme on veut.
Inimaginable. Enfin, moi, non, je tiens à l'orthographe de mon nom.
D'accord.
Bien, moi, c'est un nom. Alors, c'est Gagnage. Et en fait, ce nom vient du Berry. Mais c'était un pâturage qui appartenait donc à la mairie, enfin à la commune. Et chaque fermier, paysan, pouvait amener ses animaux directement sur ce pâturage qui était commun. Voilà.
D'accord. Michel ?
Alors, mon nom d'épouse, c'est Nogared, c'est Sévenol, et ça veut dire champ de noix, de noyer.
D'accord, ok. Et toi ?
Alors, moi aussi, j'ai un nom italien, mais j'ai un nom italien à particules.
Oh là !
Delben en deux mots. Alors, d'elle, alors c'est peut-être de le, mais enfin bon, j'ai quand même pas rien à voir avec Emmanuel de Savoie pour le sang bleu.
Alors, moi, j'ai un...
Marie-Claude.
Alors, bah, moi, je suis vraiment purement normande. Moi, c'est Pommier.
Ah bah oui.
Alors, bien sûr, il y a toutes les orthographes, hein, mais c'est l'arbre. Donc, quand on dit pommier, alors on commence à dire P-A-U. Ah non, 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 c'est l'arbre. Voilà. Donc, moi, c'est P-O-2-M-I-E-R. Et c'est vrai que je suis originaire de la Normandie, de la Manche, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore apporter comme information concernant l'origine des noms ? Quels sont les noms les plus connus à aujourd'hui ?
Alors, les noms les plus connus, ça va être des noms de prénoms, en fait. Ça va être genre comme Paul ou Valérie, ce genre de choses. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et juste après, on a des noms de lieux comme Dupont.
D'accord.
Le Dupont français est extrêmement connu.
J'avais entendu parler de Martin aussi.
Martin. Oui.
Ouais. Mais tu vas lui dire.
Et le Breton. Voilà. Le Breton aussi.
Ouais. Les plus grands noms de famille en France, ça représente à peu près 200 000 familles.
Ben voilà, donc je pense que notre intervenant... Michel, encore une petite chose à ajouter.
Juste un petit mot, qui est peut-être pour conclure, ou on peut rajouter. Les noms ont évolué. Aujourd'hui, les noms d'origine étrangère sont beaucoup plus admis qu'il y a 50, 60, 70 ans. À l'époque, les gens hésitaient à l'employer. Ils avaient des prénoms aussi étrangers. Ils francisaient, ce qui créait des imbroglios. Voilà. Ce que je veux dire, qu'il y a une évolution de la société, une admission qui n'existait pas
il y a quelques années,
parce qu'il y avait quand même, avec le nom, une forme de racisme.
Tout à fait.
Il faut le dire.
Voilà. Donc, eh bien, maintenant, nous allons passer à la minute culturelle qui va durer plus d'une minute, hein, avec MC et ensuite Michel.
Vas-y, oui, MC. Bonjour, rebonjour à tous. Hein. Je me suis replongée personnellement dans un livre de Jean-Louis Beaugarneau, « Les noms de famille et leurs secrets ». L'auteur raconte avec passion... Hein, la curieuse histoire de nos noms transmis par nos ancêtres et parents. Comme un dictionnaire, 6000 noms sont analysés. Il paraît qu'il y en a 1 200 000 en France et que nous sommes le premier pays au monde avec tant de noms de famille. Est-ce que vous me le confirmez ?
Je vous le confirme, moi j'avais 1 4
000. Oui, ben moi, il y en a peut-être plus maintenant. Alors moi, ce que j'avais lu, c'était 1 200
000. Pour donner un peu
de recul. C'est beaucoup quand même,
ouais.
Hein.
Pour donner un peu de recul, nous on a 1 4 000, on est parmi les top records. Si on prend la Chine, les 3 noms de famille les plus donnés, c'est 300 millions de personnes, ce qui fait que c'est 4 fois la population française pour 3 noms de famille.
Ah oui, en effet, oui, oui. Donc les noms de famille n'ont pas d'orthographe, ce sont des variants du patois, de la phonétique. Hein. Et depuis le Moyen-Âge, l'éventail est largement est très, très complexe, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Donc j'ai pu connaître, hein, Marie-Claude, le nom de mon nom, l'origine de mon nom de mariage déjà, c'est Foulon. Donc au XIIe siècle, c'était les moulins à Foulon, les premiers moulins de l'industrie textile lainière. Hein. Et Rouen devient vite un centre drapier important, donc je pense que mon nom Foulon est bien normand. Hein. Par contre, mon nom du côté paternel, Fortier, est un garde des forêts qui a l'œil sur les bûcherons, surtout dans le sud-est et le Jura. Voilà. Bon, je découvre aussi dans ce livre beaucoup de noms de famille. Alors, les patronymes sont issus, bien sûr, des noms de baptême, comme vous disiez tout à l'heure, empruntés souvent à la Bible. Jean, Paul, Joseph, Marie. Hein. Les noms latins, Bernardus pour Bernard, Julia pour Julie, Diana pour Diane. Les noms germaniques. Alors, le nom de mes grands-parents, c'était Hébert, qui signifiait « guerrier ». Guerrier qui vient de Harry et Bert, qui veut dire armé et brillant, d'où guerrier. Hein. Les noms de métiers, alors les noms de métiers, faucheur, balavoine, meunier, gardinier pour jardinier, chevalier, boulanger et boucher. Alors savez-vous que l'origine du nom boucher, qui vendait surtout de la viande de bouc, d'où son nom. Voilà ce que j'ai. Hein. Il y a les noms de provinces, de villes, de lieux. On retrouve des Villefranche, Bastille, Le Bourg. Le Bourg, une petite ferme souvent appelée une borde, voire Bordeaux. Voilà. Les noms d'apparence, tout à l'heure vous en parliez aussi, au physique, à la taille. Donc le blanc, le roux, le sage, le grand, joli. Les prénoms aussi transmis à titre de nom de famille. Alors, Bernard, Richard, Thomas, et donc Martin, tout à l'heure, tu disais, Marie-Claude, qui est le nom le plus répandu en France, hein, je crois, Martin, hein, je ne sais pas combien. N'ayant pas d'orthographe, on peut donc, on en parlait aussi tout à l'heure, retrouver le nom de famille Videcoq, écrit de 27 façons différentes. C'est ce que j'ai pu lire dans le livre.
Eh bien, maintenant, nous allons passer à Michèle. Donc, elle va prendre le micro donc pour 5 minutes. Oui, 5 minutes culturelles. Allez-y.
Voilà. Certains d'entre vous ont sans doute vu le film Monsieur Aznavour. Et on y apprend que Charles, arménien, est né sous le nom d'Aznavourian. Dans le film, il se fait appeler Aznavour lorsqu'il se lance dans la chanson. Alors, pourquoi qui lui a donné ce nom? Manoukian lui avait dit que les rimes en yan, ça n'allait pas marcher. En fait, c'est son père qui a écourté son patronyme. Il avait imprimé des prospectus pour son restaurant. Son voisin avait comme slogan « Chez Dupont, tout est bon ». Alors Micha a voulu faire une rime avec « Chez Aznavour, on y court ». Et depuis 1960, toute la famille s'appelle officiellement Aznavour.
Et voilà. Et voilà. Et Marie-Claude, tu veux rajouter quelque chose?
Moi, c'était une histoire sur justement les enfants abandonnés. Hein. Donc, j'avais lu aussi une revue là, sur la cuisinière de la famille Kennedy. Donc, c'était une enfant abandonnée, née à Marseille. Hein. Et donc, c'était l'hiver, il faisait froid. Et l'assistante publique, donc, ont décidé de l'appeler Le Froid. Hein, L-E-U-F-R-O-Y. Hein. Et elle revient vivre, finir ses jours à Marseille. Et le jour de ses funérailles, une gerbe de fleurs est envoyée par la famille Kennedy.
Eh bien, merci voilà, MC, merci Michel. Maintenant, nous avons notre pause musicale, notre troisième pause musicale.
Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge.
Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne le bipe.
Oh là là oui, ses yeux de braise et sa petite fossette au menton. Je n'endors plus, j'en deviens niaise. Oui, je fonds en pamoison, je soupire son nom.
Et elle achète des tas de revues pour y découper ses photos. Sur tout le mur, l'air détendu, on voit sourire le beau cabot.
Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges,
à me faire sortir le cœur par la gorge.
Si encore c'était Clark Gable, autant emporterait le vent. Mais je dois me partir sa belle gueule du donjon toute la journée sur mon écran.
C'est quand même mieux que ton football. Occupe-toi, lis ou bien picole.
Mais si je bois, je réponds plus de moi. Je supporte plus ménage à trois.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges,
à me faire sortir le cœur par la gorge.
L'autre soir en rentrant du... Avec des lits, je passe mes pantoufles. Mes blagues les rappliquent aussitôt ma graisse à me laisser sans souffle.
Est-ce que mon Georges se permettrait de se laisser aller comme tu le fais? Ah, il a raison, Aznavour. T'es beau à regarder, tu tues l'amour.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges,
à lui faire sortir le cœur par la gorge.
C'est en 2007 que ces deux artistes, Adamo et Olivia Ruiz, ont sorti ce titre qui s'appelle « Ce Georges ».
La bite, c'est un nom difficile à porter. Monsieur meurt de soif, est-ce que c'est vraiment difficile à porter votre nom? Cocu, c'est dur à porter. Nichon, c'est dur à porter.
Non, pas du tout.
Bonjour, moi je vais vous parler des pseudonymes. Alors un pseudonyme, d'abord, sachez que c'est un nom d'emprunt adopté par une personne ou plusieurs personnes pour exercer une activité sous un autre nom que celui de son identité officielle. Non ? Bon. C'est évidemment différent du surnom qui est attribué à une personne par une autre personne. Alors, l'usage d'un pseudonyme est courant dans certains milieux, ainsi dans le milieu des arts. Dans les arts du spectacle, notamment, les acteurs, les chanteurs, les humoristes, on parle de nom de scène. Alors, un petit jeu. Si je vous dis Bourvil, est-ce que vous connaissez son nom de famille?
Oui, c'est le nom de son village, en fait, Bourvil. Et puis, c'est Hambourg.
André Rimbourg.
Voilà.
La mode des pseudo-anglais s'est répandue du cinéma au chanteur yéyé dans les années 60. Alors, évidemment, Johnny Hallyday, tout le monde connaît son nom de famille.
Smith. Smith.
Sheila.
Annie Chancel.
Alors, citons de nos jours le normand Oldelaf.
Je ne connais pas.
Ah, si. Il intervient le midi sur France Inter dans l'émission de Nagui.
D'accord.
Aucune idée.
Oui.
Oldelaf, c'est Olivier Delafosse, tout bêtement.
Ah non ? Ah d'accord.
Il a notamment, c'est l'auteur de la Tristitude. Ça vous dit quelque chose, cette chanson ?
Ah d'accord.
Alors en littérature, le pseudo d'un écrivain s'appelle un nom de plume. Alors citons un écrivain connu, Georges Simenon, le père du commissaire Maigret. Mais alors ces pseudos-là, il en avait plus d'une trentaine. Alors, Georges Sim, Luc Dorson, enfin bref, etc. Je ne vais pas vous lire toute la liste. Pour se donner le genre américain, très à la mode dans les années 1940, Boris Vian, lui, va signer Vernon Sullivan, son roman « J'irai cracher sur vos tombes ». Citons aussi Romain Gary, de son nom de famille Romain. Alors, Cassiou, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, qui a obtenu deux fois le prix Goncourt, avec deux noms différents. En 1956, pour Racine du ciel, sous le nom de Romain Gary. Et la deuxième fois, Émile Ajar, La vie devant soi. Dans le domaine de la BD aussi, les pseudonymes sont nombreux. Alors, vous connaissez tous le pseudo de...
Hergé ?
Oui, non, voilà. Mmh. Et ça vient d'où ?
Alors, Hergé, c'est ses lettres de prénom, c'est lettres de... Non, c'est
oui, il s'appelait Georges Rémy.
Voilà, c'est ses initiales. Ouais.
En politique ou en situation de guerre, on trouve aussi des pseudos, des noms. Vladimir Ilitch Ulyanov, ça vous dit quelque chose?
Non. Automatiquement.
Ah, pourtant, il y a...
Lénine.
Oui, c'est Lénine, d'accord. Ça a été chanté par...
Bravo, Michel.
Pendant la Deuxième Guerre, les résistants aussi ont pris des noms de guerre. Jacques Delmas, nom de résistance, devient Jacques Chaban-Delmas. Il a été Premier ministre, maire de Bordeaux, enfin. En ligne aussi, on vous demande, de nombreuses communautés demandent de trouver, de fournir un pseudo. Dans le domaine aussi des tags et des graphes, les pratiques graphiques sont d'origine... le pseudo, ça s'appelle le blaze, qui est de l'argot français. Alors, exemple à Évreux, la boucle.
Oui, la boucle, qui est très connue à Évreux.
Oui, oui. Alors...
On connaît son nom.
Moi, je ne le connais pas. Hein.
C'est un street artiste, c'est ça?
Oui,
c'est ça.
Oui, très connu. Il intervient dans beaucoup de d'institutions, tout ça. Il décore les couloirs pour rendre les choses plus.
À Navarre, il était intervenu aussi.
Aussi, oui.
Alors, très drôle aussi les pseudos des catcheurs dans les années 50. Vous en connaissez?
C'est Mickey.
L'ange blanc, noir, je ne sais plus qui...
L'ange noir, le bureau de Béthune.
Ah, le bureau de Béthune.
Don Michel, tu as été fouillé loin. Hein.
Alors, dans le domaine de la tauromachie aussi, des matadors se sont fait connaître sous un nom d'emprunt. El Cordobès, par exemple, alors qu'il s'appelait, je ne sais pas prononcer l'espagnol, Manuel Benitez Pérez.
C'est pas mal, c'est bien.
Alors, l'usage des pseudos obéit en fait à plusieurs motivations. Parfois, on se donne un pseudo parce qu'on a un nom qui est jugé imprononçable. D'autres fois, on trouve que ça fait plus glamour de prendre un nom à consonance américaine. Puis en ligne, il vaut mieux pas donner son identité réelle.
Oui, moi, c'est mon cas. Je ne dis jamais que je m'appelle Tom Pierzic, je dis Tom Pivot.
Tu viens de tout balancer. Ton anonymat, toi.
Alors, est-ce que vous savez comment une personne qui veut garder son pseudo, comment elle écrit son nom?
Alors moi, je le fais beaucoup en ligne parce que je joue à des jeux vidéo, j'ai des communautés, etc. Et je mets que des jeux de mots. Donc je suis Tom de Savoie ou Tomahawk, la petite hache de l'Indien, ce genre de choses.
Non, mais officiellement.
Non, officiellement, je ne sais pas.
Alors, on donne son nom de famille et puis après, on met alias.
Ah oui, d'accord, effectivement.
Ou encore dit, ou encore sur l'influence de l'anglais, il y a un acronyme. AKA,
ah.
Vous savez ce que ça veut dire? Non. Also known as. Parfois utilisé par les musiciens, notamment.
Et voilà, Michel, écoute, merci. Maintenant, on va passer à Michel aussi, mais masculin. Pour ça,
oui, juste pour finir sur les pseudos célèbres. Yves Montand, vous connaissez tous. Quel était son nom?
Il était italien, mais François.
Voilà, je vous le dis tout de suite. Livy. Livy. Et pourquoi Yves Montand? Eh bien, parce que Yves Montand était d'une famille d'émigrés italiens qui était à Marseille et ils habitaient ce qu'on appelle à l'époque dans les courets. Et donc, quand il était enfant et il jouait dans la cour, sa mère qui était au troisième ou quatrième étage, il venait jamais manger à l'heure et elle l'appelait Ivo Montand. Alors, ce qui fait que c'était pas vraiment de l'italien, mais sûrement un patois. Et puis, le jour qu'on lui a dit « artiste avec un nom italien, c'est pas terrible, vous voulez vous appeler comment ?» Eh bien, Montand. Et hop, Yves Montand, c'est parti. Et voilà.
Donc, Michel, maintenant, tu vas nous faire ton billet d'humour.
Eh bien, voilà, c'est parti pour l'humour aussi. Allons-y. Deux petites histoires pour commencer. Hein. Dans une grande entreprise, le directeur demande à un jeune employé « Comment vous appelez-vous, mon garçon ?»« Thomas, et vous ?» Et là, le directeur est furieux. « Mon petit bonhomme, s'écrie-t-il, je ne sais pas d'où vous arrivez, Mais dans mon entreprise, on n'appelle pas les gens par leur prénom, mais par leur nom. Et si vous vous appelez Thomas Tartempion, eh bien, je vous appellerai Tartempion, pas Thomas. Bon, alors quoi ? Votre nom de famille, quel est-il ? Mon nom est mon chéri. Très bien, Thomas, au travail. Une autre. Deux amis échangent. Le premier dit « Alors, tu vas être papa d'une petite fille ? Comment vas-tu l'appeler ?»« Moustache de souris », répond le deuxième. « Mais tu vas pas bien, c'est pas un prénom, ça. »« Et pourquoi pas ? Toi, ta fille, tu l'as bien appelée Barbara ?» Je sais, je vous ai habitué à mieux, faut dire. Hein. Mais les vannes sur les FDF, pof. Comme quoi on fait des fois des relations, j'avais marqué NDF et j'ai dit SDF.
Ah oui.
Donc pas facile. Question humour, en principe, je suis le Raymond DeVos de l'émission. Non, j'ai pas la grosse tête. Juste que ça m'arrange pour recoller au sujet, et là je lis bien. Les NDF, nom de famille, savez-vous que De Vos était né en Belgique et De Vos a une origine flamande, quasi hollandaise. Et là-bas, De Vos veut dire rusé ou renard et certaines fois roux. Tout ça parce que je n'avais rien à dire d'intelligent et que j'avais 2 minutes sur le conducteur. Je me suis donc servi de l'humoriste le plus lettré de la langue française, un magicien, le roi de l'humour. Ouf, il n'est pas resté belge. Il est devenu français par naturalisation. Voilà. Et mon admiration date de très loin. Dans ma jeunesse, je l'avais vu dans un spectacle en plein air. Voyez quel souvenir. Je me suis servi de lui aujourd'hui.
Et pour terminer, donc, nous allons avoir Sylvie avec sa bonne nouvelle.
Et oui, c'est une bonne nouvelle que j'ai trouvée dans le magazine La Gazette. À l'occasion des 40 ans des Restos du Cœur et des 40 ans d'Astérix et Obélix, des grands chefs ont écrit un livre de recettes de banquets. L'objectif est d'offrir des repas aux Restos du Cœur grâce aux bénéfices des éditions Albert René et aux droits d'auteur qui sont reversés à l'association. Un livre acheté permet d'obtenir 5 repas. Différents menus sont proposés, chacun par des grands chefs comme Cyril Lignac ou Thierry Marx. Ce dernier propose un menu composé d'œufs pochés et oignons rôtis en entrée, écrasés de pommes de terre et maquereau poêlé, puis pâte à crêpes secrète. En achetant ce livre, on allie ce beau geste au plaisir de cuisiner comme un chef et comme les fêtes approchent, allez tous au fourneau.
Et voilà, ben nous arrivons au terme de notre émission. Hein, je vous donne donc quelques infos concernant des noms de famille. Enfin, c'est surtout les livres que l'on peut consulter. Alors, je vais vous rappeler un livre que MC nous a indiqué. Donc, c'est « Les noms de famille et leurs secrets » de Jean-Louis Bocarnot aux éditions Robert Laffont. Et moi, j'en ai trouvé un autre, c'est « Que veut dire mon nom de famille ?» donc, qui est écrit par Marie-Odile Merniac, qui est une historienne et une journaliste spécialiste des noms de famille et de la généalogie. D'ailleurs, elle organise au printemps prochain, les 13, 14 et 15 mars 2025, le Grand Salon de la Généalogie avec la mairie du 15e arrondissement de Paris. La généalogie, un thème pour une future émission ? Pourquoi pas ? Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Laurence Cavallo et Tom, un grand merci à Vincent pour la technique, l'accompagnement à la préparation de notre émission. Nous nous retrouvons le jeudi 19 décembre 2024 en direct. Alors j'ai oublié aussi, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, je crois que je n'ai pas précisé aussi que nous pouvons retrouver Tom et Laurence aux archives municipales, 15 rue Saint-Louis, c'est ce que vous aviez dit.
C'est exact, venez nous rendre visite en salle de lecture des archives municipales, nous sommes ouverts au public du mardi au jeudi et nous serons là pour vous accueillir et vous guider dans vos recherches généalogiques.
Tout à fait.
Donc au numéro 15, alors vous trouverez, si vous voulez appeler sur les réseaux, vous trouverez le numéro de téléphone. Hein, voilà. Et donc nous nous retrouvons donc jeudi 19 décembre, exceptionnellement, parce que sinon après on est arrivé trop près de Noël, donc on sera le troisième jeudi de décembre, en direct, donc pour une nouvelle émission, toujours sur Principe Actif, 102.4 à Évreux, 95.9 sur Verneuil, Breteuil et Conches. À la prochaine.